RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Sur c'est l'Intégral Sport jusqu'à 17h, évidemment, l'événement de l'après-midi, ce Grand Prix de France, la 12e manche du championnat du monde de Formule 1. La course sera à suivre en intégralité sur RMC. Présentation dès 14h30 avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier. Évidemment, la pole position est pour Charles Leclerc devant Max Verstappen et Sergio Pérez. Dans un instant, direction Eugene, les mondiaux d'athlétisme, la dernière journée de compétition et les travaux d'Hercule qui continuent pour Kevin Mayer, 6e du décathlon alors qu'il reste 5 épreuves à disputer. Vous l'entendrez au micro d'Aurélien Tiercin, puis on reviendra sur les résultats de la nuit. Et puis 14h20, le Mercato Show avec le Bayern Munich qui s'offre un grand espoir français. C'est reparti. Et on va prendre tout de suite la direction du Castellet, justement le Grand Prix de France. On le disait, c'est l'événement du week-end en France. 200 000 spectateurs attendus sur 3 jours de compétition. On retrouve Valentin Jamin qui est sur place. Salut Valentin.
Salut Benoît, salut à tous.
Bon, allez, parle-nous un peu de l'ambiance. Est-ce qu'il y a de l'engouement autour de ce circuit du Paul Ricard?
Ah oui, il y en a. On a vu il y a quelques minutes, une demi-heure à peu près, la parade des pilotes, tous les pilotes de Formule 1 de cette année qui ont défilé sur des voitures anciennes et qui saluaient la foule. Les tribunes étaient pleines, il y avait énormément d'acclamations. C'était vraiment un moment sympathique. On attend à peu près 80 000 personnes aujourd'hui. Il y avait à peu près la même chose hier, donc il y a un vrai engouement, 200 000 sur tout le week-end. Alors il fait très très chaud, il fait très très beau, mais ça n'a pas freiné donc les gens, des drapeaux français, vraiment énormément de drapeaux français, des casquette bleue aux couleurs de l'écurie française Alpine où évolue Esteban Ocon, la casquette numéro 10 de Pierre Gasly chez AlphaTauri. Donc il y a une vraie attente, d'autant qu'on sait, hein, Benoît, que c'est peut-être probablement la dernière fois avant quelques temps que le Grand Prix est là. Donc non, vraiment une belle attente, des gens heureux, on va l'entendre. Et puis je vous parlais des casquettes, je vous parlais des drapeaux, il y a un autre accessoire qui fait fureur. Ici je vous propose d'écouter quelques fans qu'on a rencontrés avant qu'ils ne montent en tribune.
Je suis un grand fan, je regarde en général qu'à la télé, mais là c'est la première fois que je viens ici et super excité en espérant un bon résultat d'Alpine. Bah ouais, un peu patriote quand même, donc on espère. Ouais. Voilà, on est au circuit Paul Ricard, le Bob. On est local, c'est pour être dans le thème en fait. C'est collector, et tout le monde me demande où c'est qu'on l'a acheté en plus, alors comme on est du sud, nous le Bob c'est obligatoire.
Si t'as pas ton Bob, t'as pas vraiment fait partie du circuit pendant le week-end.
Je pense qu'il peut partir autour de 100 euros maintenant, mais il fallait être là le vendredi. Déjà hier, ça commençait à nous demander si ça pouvait se monnayer, et puis aujourd'hui. Je pense qu'on en voit de moins en moins. Nous, on le vendra pas.
Je te ramène un Bob, Benoît.
Ah bah j'espère bien.
C'est une denrée rare. Il y en avait 10 000. Il y en a plus du tout. Il y en a qui ont été donnés, offerts aux VIP, vendus. Mais c'était un peu la surprise. On s'attendait pas forcément à un engouement. Voilà, on peut revenir sur le sportif.
Non, bah attends, moi j'avais deux missions pour toi. Déjà, je voulais que tu me ramènes un Bob, évidemment. Et je voudrais que tu nous fasses un selfie avec le Bob et que tu mettes ça sur le hashtag RMC Live, que tout le monde puisse en profiter.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vais le faire. Il y a la casquette et il y a le Bob, mais le Bob me va particulièrement bien.
Ah oui, j'imagine. J'imagine. Ça doit faire un combo magnifique. 14h06, on est donc en direct du Castellet, dans moins d'une heure le départ du Grand Prix de France. Oui, question toute bête, combien ça coûte une place en tribune pour assister au Grand Prix de France, mon petit Valentin?
Eh bien écoute, je vais pas te cacher que tu me colles, puisque ça dépend aussi des tribunes. A priori, on doit être pour les moins chers aux alentours peut-être de 50 euros. Après, ça monte effectivement en fonction d'où vous êtes, en fonction de si vous êtes là comme se trouve la salle de presse où nous on est au niveau de la ligne de départ, ou si vous êtes dans des virages. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est donné. Effectivement, c'est pas non plus exorbitant en fonction d'où vous pouvez vous trouver. Mais en tout cas, toutes les places sont trouvées preneurs.
Oui, juste dernière remarque, c'est vrai qu'il y a deux pilotes français entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Le troisième coureur le plus supporté, c'est tout de même Charles Leclerc, qui est monégasque, hein, qui a grandi pas loin d'ailleurs, et qui partira en plus en pole position. C'est un petit peu le chouchou du public, Valentin. Hein.
Ouais, j'allais vous en parler, parce qu'avec Pierre Gasly 14e sur la grille et Ocon 10e, c'est vrai que les espoirs de podium ou de victoire ont été un petit peu refroidis hier. Il y a Charles Leclerc, donc le monégasque, en pole avec Ferrari, alors soutenu parce qu'effectivement il a grandi, il a commencé le kart pas loin, parce qu'il est monégasque, on n'est pas si loin ici au Castellet, et puis parce que Ferrari, Italie, l'Italie c'est pas loin d'ici non plus, donc effectivement c'est presque même l'écurie la mieux représentée, et puisque les Français sont un peu divisés entre Gasly et Ocon, il y a beaucoup de casquettes de drapeau Ferrari, et j'ai même croisé une des personnes qu'on a interviewé tout à l'heure qui me disait ce serait cool que Charles Leclerc, s'il gagne, s'affiche aussi avec un petit drapeau français, donc on arrive à faire cocorico même avec Charles Leclerc qui est très très soutenu ici effectivement.
Bon, parfait. Merci Valentin, j'attends la photo sur le hashtag RMC Live,
avec plaisir, évidemment.
Et puis on te retrouvera un petit peu plus tard, on rappelle départ du Grand Prix à 15h sur RMC, présentation complète à partir de 14h30, 14h08 sur RMC l'intégral sport. Et tout de suite on retourne à Eugene aux États-Unis, un événement, les mondiaux d'athlétisme qui s'achève la nuit prochaine en Oregon. La nuit d'ailleurs a été marquée, on le rappelle, par l'entrée en lice de Kevin Mayer sur Décathlon. Vous allez l'entendre dans un instant puisqu'il s'est entretenu avec Aurélien Thiersin qui est sur place à l'issue de ces trois premières épreuves hier. On fait le point sur ce qui s'est passé la nuit dernière avec Mathilde Caron, journaliste à RMC Sport. Salut Mathilde.
Salut Benoît, bonjour à tous.
Mathilde, le récap de la nuit c'est avec toi avec quelques bonnes nouvelles.
Oui, on va commencer par les bonnes nouvelles. Les relais hommes et femmes du 4x400 mètres se sont tous les deux qualifiés en finale. Le relais féminin emmené par Sorna Lacoste, Shana Grebo, Soukam Basila et Amandine Broissier a terminé troisième de sa série. Les hommes ont eux été repêchés au temps pour un petit centième de mieux que l'équipe néerlandaise. Les finales se dérouleront cette nuit à 4h35 pour les femmes et 4h50 pour les hommes.
On a une petite déception sur le sprint français parce qu'on attendait beaucoup du 4x100 mètres qui est un peu passé à côté de sa finale malheureusement.
Oui, les Français avaient pourtant été très bons en demi-finale mais ont été disqualifiés en finale à cause d'un mauvais passage de témoin entre Michael Mebazese et Pablo Matteo. Les Français terminent donc à la 8e position et ce sont les Canadiens qui se sont imposés, emmenés par André De Grasse en 37 secondes et 48 centièmes. Les États-Unis et le Royaume-Uni complètent le podium.
Ouais, un peu une surprise de voir les Américains battus, mais le Canada a fait le boulot sur cette épreuve. Et puis côté tricolore, on a une autre déception. On attendait beaucoup du 800 mètres. On avait deux représentants et malheureusement, il n'y a même pas de top 5 pour nos tricolores.
Ouais, Gabriel Thual était pourtant bien parti dans le peloton de tête pendant les 600 premiers mètres avant de craquer dans la dernière ligne droite. Et sans surprise, c'est le Kenyan Emmanuel Korir, champion olympique en titre, qui remporte ce 800 mètres devant l'Algérien Jamel Sedati et le Canadien Marco Arop. Septième des Jeux Olympiques de Tokyo, Gabriel Thual termine donc sixième des championnats du monde. Le Français était déçu de sa course au micro d'Aurélien Thiersin.
Ouais, non, ça suffit pas, mais il n'y avait pas mieux à aller chercher aujourd'hui, donc bon, va falloir s'en contenter, hein, mais ouais, c'est pas ce que j'étais venu chercher et je suis déçu forcément, mais ouais, je sais pas trop ce qui m'a manqué, peut-être un peu de fraîcheur mentale et physique, mais je pense que l'expérience même là, sur cette course, je l'avais, de par ma finale olympique, et c'est vrai que c'est rageant maintenant, ça m'a suffi l'expérience, moi, je vais avoir des médailles et bon, ça sera pour bientôt, je pense, et je l'espère. Ouais.
Et nous aussi, on l'espère, pourquoi pas dès les championnats d'Europe à Munich, hein, à suivre à la mi-août, évidemment. Sur RMC. Et puis Mathilde, on le disait, on va l'écouter dans un instant, mais fais-nous un petit récap des premières épreuves de Kevin Mayer. Où en est-il justement au niveau du concours du décathlon?
Alors on le sait, il était gêné par plusieurs blessures ces derniers mois, mais Kevin Mayer réalise une première journée plutôt convaincante avec 10 secondes 62 sur 100 mètres, 2,05 mètres en saut en hauteur, 7,54 mètres en saut en longueur et 49 secondes 40 sur 400 mètres. Le Français a surtout perdu des points sur le lancer de poids avec un G à 14,98 mètres. Alors à mi-parcours, le champion du monde 2017 occupe la 6e place du classement avec 4,372 points. Et pour l'instant, c'est le portoricain Aiden Owens de Lerme qui occupe la tête du classement avec 4606 points. Et on retrouve Kevin Mayer ce soir pour les 5 dernières épreuves du décathlon, avec le 110 mètres haies à 18h35, le lancer de disque à 19h30, le saut à la perche à 21h15, le lancer de javelot à 2h05 et le 1500 mètres à 4h20. Le Français peut toujours aller chercher l'or, surtout après l'abandon du champion olympique en titre, Damian Warner, blessé sur 400 mètres.
Rien qu'en énumérant les disciplines, ça paraît long. Donc c'est dire un concours du décathlon. Rien n'est fait, évidemment, Kevin Mayer qui va viser le podium. Merci beaucoup Mathilde Caron pour ce récap très complet. Et justement, on va l'entendre, Kevin Mayer qui était au micro d'Aurélien Thiersin à la sortie de piste hier soir, sa vision justement de la suite du concours et pourquoi pas une médaille mondiale pour Kevin Mayer. Écoutez-le.
Kevin, bon déjà, pour commencer, tu parlais de plaisir. Est-ce que déjà tu as kiffé par rapport à Tokyo, j'imagine, mais est-ce que tu as kiffé tes épreuves?
Pour être honnête, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai un peu l'impression d'être dans la brume en ce moment. Je sais pas, depuis deux jours, depuis que je suis arrivé au village, je dors moins bien, j'ai chaud, j'ai froid. Je suis pas super, quoi. Je sais pas si c'est la pression parce que j'ai mal vécu les jeux avant, etc. Et je pensais que ça disparaîtrait aujourd'hui. Ça s'enlève de plus en plus, mais le plus gros point mort, c'était le poids où je sentais plus rien. J'avais du mal à ma vision se troubler, etc. Donc vraiment, vraiment dur à envisager ça. Et à la hauteur, à chaque essai, c'était un peu mieux. Donc je peux pas me plaindre, c'est quand même une bonne première journée vis-à-vis des sensations que j'ai eues. J'espère prendre plus plaisir demain.
Bon, le show, c'est aussi l'abandon de Damian Warner. T'en parlais, tu l'avais vu aussi se toucher un peu l'ischio à l'échauffement. Alors bon, on sait pas encore ce que c'est, mais visiblement, ça ressemble à ça.
Pour être honnête, j'avais pas vu moi. J'étais au micro de Nelson quand c'est arrivé et franchement ça m'a mis des frissons parce que on n'espère jamais ça pour n'importe qui et surtout pas lui parce que c'est un pote aussi. On discute à chaque décathlon, on connaît la vie un peu de l'autre, l'un de l'autre, donc on n'espère pas ça sur un mec. Il allait sûrement avoir un gros fight demain pour la médaille d'or. Il était favori en fin de journée, donc on connaît ma première journée, mais ça allait être difficile à aller chercher. C'est vrai qu'il me laisse un petit boulevard, mais faut pas laisser les jeunes derrière. Je pense que ça va quand même être compliqué.
Ouais, justement, alors t'es sixième provisoire, mais tu l'as dit, ta deuxième journée, notamment avec les lancers, habituellement te permet de remonter au classement. Tu penses que ce sera le cas aussi demain?
J'ai un petit brin de confiance là-dessus parce que mes épreuves sont plutôt bien rodées par rapport aux autres. Je peux me permettre d'être assez confiant et avoir quelques bases dans chaque épreuve. Donc c'est sûr que je suis le gros favori. On va pas se le cacher, je suis le gros favori du podium. Après, il faut réussir à l'assumer tout simplement. C'est juste ça en fait.
Le physique tout simplement, est-ce que ça a été?
Bah, la hauteur me faisait très peur. J'ai pas ressauté depuis Val-de-Reuil au 11 février. Parce que je m'étais fait mal au tendon d'Achille, c'est à cause de ça que j'avais arrêté 3 mois à la course, etc. Et j'avais pas ressauté depuis. Donc réussir à faire 2m05 dans ces conditions, en faisant une grosse impasse, etc. pour se préserver, c'est le meilleur concours que j'aurais pu faire à ce stade-là. Donc je me remets en confiance avec mon physique et c'est plutôt bon, quoi. C'est dommage d'avoir ce petit état un peu, je sais pas, j'ai dû avoir un truc digestif ou quoi, mais j'arrive pas à profiter comme d'habitude des vraies sensations que j'ai. Elles sont un peu plus lointaines, pour être honnête.
Bon, et juste pour terminer, la concurrence, on voit ce portoricain Owens Delerm qu'on connaît pas, le grand public ne connaît pas, mais il fait une énorme première journée, là, un 400 mètres de folie. Et il n'y a pas que lui, il y en a aussi pas mal qui font des bons résultats.
Ouais, après, c'est la première journée. Toujours ça, faut voir ce qu'ils valent. C'est vrai que ce mec-là, je ne le connaissais pas. On s'est rencontrés en série du 100 mètres, on s'est dit bonjour, on a parlé après, il a l'air trop cool. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il vaut en deuxième journée. Il faut qu'on regarde quand même parce que.
A priori, ses records sont loin des tiens en deuxième journée.
C'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Ils sont très très forts, très explosifs. Mais c'est vrai que quand on parle de lancer, de haies, de perches, de javelot, de disque, enfin tous ces trucs-là qui sont un peu plus techniques, c'est vrai que j'ai de la marge. Maintenant, si je fais comme le poids, ils peuvent vite me rattraper aussi. Donc faut faire gaffe.
Bon, merci beaucoup, Kevin.
Avec plaisir.
Bon repos. Merci.
Et voilà, Kevin Mayer, l'entretien, la sortie de la piste hier avec évidemment Aurélien Tiercin. On suivra la suite de ce concours avec notamment le saut en hauteur à partir de 1h du matin. Donc avec Aurélien Tiercin, on vous tient informé sur rmcsport.fr. On espère enfin une médaille dans ces championnats du monde d'athlétisme à Eugene. 14h15 sur RMC. Je vous rappelle d'ailleurs ce magnifique cadeau qui est mis en jeu par toute l'équipe d'RMC Running. C'est le podcast dédié à tous les passionnés de course à pied. Il y a un épisode toutes les semaines. Magnifique défi qu'on vous lance pour la rentrée. Toute l'équipe d'RMC Running vous offre votre dossard pour le marathon mythique Nice-Cannes. Voilà, ça sera prévu le 30 octobre prochain. En plus de cela, on vous offre votre plan d'entraînement personnalisé et encadré par notre champion Johan Durin, qui est marathonien de l'équipe de France, et votre tenue complète RMC Running. On cherche évidemment 4 profils différents, 2 hommes, 2 femmes, 4 objectifs différents, du premier marathon jusqu'au moins de 3 heures. Et puis ce point commun, cette motivation pour aller au bout de votre défi. Si vous voulez candidater, vous allez sur nos réseaux sociaux, évidemment les comptes RMC Running sur Twitter, sur Instagram, et le club RMC Running sur Strava. Vous vous laissez guider, ensuite il y a un formulaire à remplir. 14h16 sur RMC dans un instant. Le Mercato Show, évidemment, on va parler du Bayern de Munich qui s'offre un espoir français pour un montant assez hallucinant. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
14h20 sur RMC l'Intégral Sport. Dans 10 minutes, on vous présente le Grand Prix de France. C'est la 12e manche du championnat du monde. Évidemment, c'est un événement puisque le Grand Prix de France pourrait disparaître à l'issue de la saison et sortir du calendrier. On en parlera avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier. C'est la Dream Team RMC Sport. Évidemment, c'est Charles Leclerc qui partira en pole position. On vous rappelle également qu'on suit les mondiaux d'athlétisme. On suivra le concours de Kevin Mayer ce soir au Décathlon. Vous venez de l'entendre, vous le retrouver sur rmcsport.fr. On rappelle l'autre événement, c'est la dernière étape du Tour de France, départ de la Paris La Défense Arena pour une arrivée aux Champs-Élysées. Toute l'équipe de l'Intégral Tour sera de retour à partir de 17h autour de Christophe Cessieux. On y va tout de suite pour le défi hippique.
RMC,
le défi hippique.
Avec le Zach, Mathieu Zaccanini, qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Et oui, c'est son anniversaire. Et ça
te bat
bien, cette musique.
Allez, allez, allez. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Nos voeux de bonheur. Ah, bah merci beaucoup.
Alors, mon ben. Qu'est-ce qu'on te souhaite? De bons pronostics?
Ouais, de bons pronostics.
Victoire de l'Olympique Lyonnais?
Victoire de l'Olympique Lyonnais, évidemment, ouais. C'est très important.
C'est pas gagné.
C'est pas gagné, mais c'est encourageant. On est pas mal. Ouais. Et puis,
ils ont pris que 5-0 hier en amical, t'as raison. C'est plutôt pas mal.
Ça s'est mal passé hier, j'ai vu le score.
Mais bon.
C'est encourageant quand même. Je pense qu'on va se refaire. On va se refaire.
Toutes les équipes RMC Sport te souhaitent un joyeux anniversaire.
Bah, c'est adorable.
45
ans, ça se fête. Ouais, c'est vrai.
Bravo, Mathieu.
Merci, mon Ben.
Et tu voulais nous parler du quintet de Dieppe.
Et c'est important. Évidemment. On va parler du quintet de Dieppe. Alors aujourd'hui, le quintet plus, hein, il se dispute sur la distance des 2400 mètres. Il s'agit d'un handicap divisé. On se retrouve donc pour le défi pic, parce que ça, on l'a pas précisé. Ils sont 15 à prendre part à la compétition. Ce sont des galopeurs. Et on est avec Sylvain aujourd'hui. Bonjour, Sylvain.
Salut tout le monde.
Salut Sylvain. Tu peux souhaiter un bon anniversaire à Mathieu quand même, Sylvain.
Bon anniversaire Mathieu.
Ah, merci.
Merci Sylvain.
Bon, tu peux le battre quand même, hein, ça nous dérange pas.
Alors, ouais, Sylvain,
Sylvain, tu as choisi qui dans cette compétition quand même qui est très ouverte, hein, il y a beaucoup de possibilités.
Alors, j'ai choisi le 6, Stéphane Olegrin.
Ouais, elle la prononce bien, parce que c'est pas évident.
Il se fait bien avec le handicap et il fait preuve d'une belle régularité en 2022, alors pourquoi pas.
Eh ben, c'est vrai que c'est une belle possibilité ce numéro 6, Stéphane Olegrin. Nous, on va lui opposer le numéro 7, hein, qui est à peu près la même cote, hein, ça voisine les 8 contre 1. C'est un cheval qui vient de très bien se défendre, hein, dans un handicap en valeur 35,5 sur les forums de Nantes. Donc on pense que potentiellement ce numéro 7 pourrait se mettre en évidence s'il avait bénéficié d'un bon parcours. En tout cas, si le numéro 7, Just Light, termine devant le 6, hein, Stéphane Olegrin, tu reviens dès demain pour un nouveau défi pic. Bonne chance à toi, Sylvain.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci à Sylvain. Merci Mathieu. Évidemment, on suivra le quintet avec toi en direct tout à l'heure, juste après 15h. 14h22, un point sur le Mercato.
RMC, le Mercato Show.
Elle lui fête pas son anniversaire aujourd'hui, Nicolas Pelletier. Salut Nico.
Salut à tous.
Nico, on voulait parler de ce transfert qui peut surprendre ceux qui ne connaissent pas le joueur. On en parle depuis des jours et des jours. Le Bayern de Munich qui va s'offrir un joueur qui compte moins de 80 minutes en Ligue 1. C'est le jeune Mathys Tel, capitaine de l'équipe de France U17.
Oui, après plusieurs semaines de négociations, Rennes et le Bayern de Munich ont trouvé un accord de principe pour le transfert du jeune attaquant de 17 ans. Le prix, tenez-vous bien, un peu moins de 30 millions d'euros bonus compris. Selon les informations de l'équipe, il y aura aussi un pourcentage sur une possible revente du joueur. Avec ce prix, ce transfert est un record en France pour un jeune de 17 ans. Au total, ouais, le Bayern a fait 4 offres pour s'attacher les services de Tel. On rappelle, le joueur, comme tu l'as dit, a été champion d'Europe des moins de 17 ans et il va s'engager pour 5 ans avec le Bayern de Munich.
Avec l'ambition d'avoir un peu de temps de jeu dès cette saison, hein, c'est un dossier qui a été suivi par Hassan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern. Et si vous voulez en savoir plus sur Mathys Tel, il y a un excellent papier sur rmcsport.fr. Et surtout un épisode de Scouting, notre podcast dédié aux jeunes talents français de demain, avec Mathieu Bodmer et Loïc Tanzi. Vous y allez, c'était le premier numéro.
7 matchs de Ligue 1 dans sa carrière, 49 minutes au total.
Ah, exactement, c'est très peu de temps de jeu, mais on l'avait déjà identifié comme un talent, puisqu'à l'époque, c'était le plus jeune joueur à signer professionnel au Stade Rennais, devant un certain Eduardo Camavinga. Donc Mathys Tel qui va déjà quitter Rennes pour aller rejoindre le Bayern de Munich. On parle du PSG également, Paris qui est toujours en stage au Japon. On suit ça avec Arthur Perrault. Il y aura un dernier match amical demain à disputer pour les Parisiens. Le PSG qui aurait trouvé un accord avec Leipzig justement pour Nordi Mukiele. Hein.
Oui, selon nos informations, le club parisien et Leipzig ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur de 24 ans. Dans cette histoire, en fait, tout s'est accéléré hier soir pour parvenir à cet accord. On le rappelle, un accord total et contractuel avait été trouvé entre Paris et l'ancien joueur de Montpellier. Mukiele devrait être la troisième recrue de l'ère Campos au PSG avec les arrivées de Vitinha et d'Hugo Ekitike. Et autre nouvelle côté parisien, la piste de Scamacca est définitivement à oublier. Le président de Sassuolo a confirmé le transfert à venir de son attaquant en première ligue à West Ham pour 36 millions d'euros, plus 6 millions d'euros de bonus et 10% à la revente. Donc c'est une piste à oublier pour le PSG.
Ah, au final, c'est moins que les 50 que Sassuolo réclamait au PSG, quoi.
Mais voilà. il y a un petit pourcentage à la revente et 6 millions d'euros de bonus.
Voilà, d'accord. Et en fait, on n'est pas loin du prêt du Goekitike, enfin du montant de transfert des Goekitike.
C'est ça.
Ok, donc voilà. Donc Scamacca qui va filer a priori en Angleterre. Parlons de l'OGC Nice, il y a un dossier prioritaire pour les Niçois et pour Lucien Favre, c'est trouver un gardien, le remplaçant de Walter Benitez qui a quitté justement le club libre et qui s'est engagé avec le PSV Eindhoven, futur adversaire de Monaco en tour préliminaire de Ligue des Champions. Une cible très connue, un gardien confirmé de Première Ligue qui est ciblé par l'OGC Nice.
Kasper Schmeichel, d'après nos informations, le club des Aiglons rêverait de faire venir Kasper Schmeichel. L'idée en fait est de convaincre le portier danois de Leicester, âgé de 35 ans, de terminer sa carrière à Nice. Des échanges auraient eu lieu entre les différentes parties. D'après nos informations, il reste toujours à connaître la position et les exigences de Leicester pour un transfert du gardien. Ah oui. Le portier est encore sous contrat pour un an avec le club anglais. Il s'agit vraiment du tout début du dossier. Reste à savoir si les discussions pourront aboutir à un transfert.
Ce sera un sacré coup réalisé tout de même. Un gardien international qui a porté son club jusqu'à un titre de champion de Première Ligue. Ouais, ça serait un beau coup réalisé par les dirigeants niçois. On voulait aussi parler d'Antoine Griezmann parce qu'on pensait que son avenir était réglé et qu'il allait rester justement chez les Colchoneros. Mais finalement, il pourrait quitter l'Atlético dès cet été. Hein.
C'est la nouvelle qui a fait le tour des journaux en Espagne hier soir quand le Times, qui est un journal très sérieux, a annoncé que l'Atlético Madrid songe à se séparer d'Antoine Griezmann pendant ce mercato d'été avec une idée en tête. Attirer Cristiano Ronaldo derrière. Griezmann est sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Atlético. L'attaquant français de 31 ans avait été prêté pour deux saisons par le Barça avec l'obligation d'achat de 40 millions d'euros à la fin de cette année, ce qui n'a pas empêché les Colchoneros de le mettre sur le marché. Et depuis son retour dans la capitale, même si ça s'était très mal passé à Barcelone, ça s'est aussi passé à l'Atlético. Ils songent donc à s'en séparer pendant ce mercato d'été.
Et on n'a pas de piste potentielle pour Griezmann?
Alors certains médias, mais qui sont peu sérieux, ont dit qu'il avait été proposé au Paris Saint-Germain et que l'offre avait été refusée. Ah, mais bon, c'est des médias peu sérieux.
Ok, donc on verra où Griezmann jouera l'été prochain. Tu voulais nous parler d'un ancien Parisien qui a choisi de rebondir au Mexique.
Oui, il ne veut pas raccrocher ses crampons libres de tout contrat après son deuxième passage au Barça. Le latéral droit, Dani Alves, s'est engagé hier avec les Pumas, club de la capitale de Mexico, contrat d'un an pour le Brésilien. Il retrouvera d'ailleurs le Barça à la fin du mois d'août pour un trophée de pré-saison. 39 ans et donc il va au Mexique peut-être pour terminer sa carrière.
Il nous fait des Zlatan, quoi. Il veut pas s'arrêter. Et puis on termine justement ce mercato show, les infos mercato de la journée, avec l'étonnante déclaration du président du Barça sur Léo Messi, Nico.
Oui, on voit Messi tout sourire sur les vidéos publiées par le PSG depuis le début de la tournée au Japon, mais à Barcelone on pense toujours à lui. En marge du classico entre le Barça et le Real cette nuit à Las Vegas, Laporta, le président du Barça, a lâché une petite phrase qui fait la une aussi des journaux en Espagne au sujet de Messi. S'il dit « Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Messi au Barça ne soit pas terminé ». Voilà comment relancer un feuilleton pendant ce mercato estival. Et toujours au Barça, on termine avec le quotidien allemand Bild qui dit que le Marcos Alonso, le latéral gauche de Chelsea et international espagnol, est entré en phase de négociation finale avec le Barça pour un transfert qui pourrait atteindre les 10 millions d'euros. Chelsea au Barça, Marcos Alonso.
Encore une recrue pour le Barça. Pourquoi pas? Barça très actif, hein, malgré ses soucis financiers sur le marché des
transferts. Ils ont retrouvé pas mal de liquidités pendant ce mercato.
Avec, en revendant une partie des droits d'image, je crois, effectivement, avec
du cash qui est tombé. Et aussi des droits télé en Espagne qui a permis au Barça de retrouver du cash.
Dembélé s'est réengagé. Rafinha est arrivé. Il y a pas mal de recrues côté barcelonais.
Lewandowski,
Franck Caissier. Voilà, ça fait de la recrue à Barcelone. Merci Nico. Toutes les infos transferts à retrouver sur rmcsport.fr. 14h29 sur RMC. Il est là, dans le studio. Le King est de retour dans les starting blocks déjà, puisque dans 30 minutes, tout pile, départ du Grand Prix de France au Castellet, sur le circuit Paul Ricard. Il va tout nous dire justement des enjeux sportifs et du contexte de ce Grand Prix de France dans un instant avec Denis Chevrier, notre consultant RMC Sport, qui va nous rejoindre tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
14h31 sur RMC, l'intégral sport, évidemment, jusqu'à 17h avec l'événement qui arrive à partir de 15h, le départ du Grand Prix de France à suivre en intégralité sur RMC. On vous en parle dans une minute et on vous rappelle l'autre rendez-vous à 17h, c'est la dernière étape du Tour de France entre la Paris, la Défense, Arena et les Champs-Élysées. Étape à suivre à partir de 17h avec Christophe Cessieux et toute l'équipe de l'intégral Tour, Jérôme Coppel, Cyril Guimard, Pierre-Yves Leroux, Arnaud Souk, Julien Richard et Kevin Morand. Voilà, tous ceux qui vous ont fait rêver durant ces trois semaines seront bien là pour cette dernière étape et pour le sacre notamment de Wout Van Aert, qui est le maillot vert, forcément celui qui a sublimé ce Tour de France. Tadej Pogacar qui termine deuxième derrière Jonas Vingegaard, qui va décrocher son premier Tour de France dans sa carrière, le Danois magnifique. Grande boucle qu'on a suivi sur RMC. 14h32, il est là donc à mes côtés, Jean-Luc Roy, la voix de la Formule 1 sur RMC. Salut Jean-Luc.
Salut Benoît, bonjour à tous. Rebonjour à tous.
Pour ce week-end particulier, ce Grand Prix de France qu'on attend avec beaucoup d'impatience, on va retrouver évidemment Denis Chevrier dans une seconde. Rappelons le contexte particulier, malheureusement, Jean-Luc, du Grand Prix de France au Castellet. Le contrat se termine à l'issue de la saison et on n'est pas du tout sûr, c'est le moins qu'on puisse dire, d'avoir un Grand Prix de France l'an prochain. C'est quasiment même acté qu'il n'y aura pas de Grand Prix en France l'an prochain. Hein.
Alors, c'est pas encore totalement acté. Il y a eu des négociations, des rencontres entre Stefano Domenicali, qui est donc le nouveau patron de la F1 opérationnel. Apparemment, l'engouement populaire, on peut le dire, puisque 200 000 personnes
En
3 jours. Donc c'est formidable. On a vu qu'également, on a été capable, et on n'en doutait pas un seul instant, avec Stéphane Clerc, qui était ce matin sur l'antenne dans les GG, et Éric Boulier, le directeur de l'organisation générale de ce Grand Prix, de mettre en place également, on va dire, tout ce qui va autour, l'emballage général. Je pense que c'est un succès. L'engouement en France de la Formule 1 non seulement n'est pas démenti, mais est confirmé. Maintenant, c'est affaire de gros sous, tu le sais bien comme sûr. Moi, Benoît. La Formule 1, avant tout, c'est du business. Donc, quand il y a une file de pays, paraît-il, qui attendent pour avoir une date, on sait qu'on a 22 Grands Prix cette saison, on devait en avoir 23, puisqu'on a annulé le Grand Prix de Russie, naturellement. Mais on pourrait aller jusqu'à 25, semble-t'il, d'après les règlements. Donc, il y a un peu de place. On sait que le Grand Prix de Belgique, également, est en fin de contrat. Et c'est le cas de Monaco, également, ce qui est incroyable. Je ne peux pas penser une seconde que Monaco ne soit pas reconduit.
Il y a des limites, quand même.
Voilà. Parce que Monaco, on le sait très bien, en termes, justement, de montant de contrat payé très peu, voire rien du tout pendant longtemps.
Oui, c'est des accords signés à l'époque de Bernie Ecclestone.
Exactement. Ouais. Exactement. Alors, on reprochait, je vais être cru, là aussi, à Bernie Ecclestone, d'être un rascal, d'être un renard et de toujours faire parler l'argent. On voit où on en est aujourd'hui. Je veux dire, c'est malheureusement une dérive générale dans l'ensemble des sports et je dirais même dans l'ensemble du monde. Donc, il n'y a pas de raison que la Formule 1 échappe à ce problème-là. Surtout que, bon, si on fait entrer, certains le font, comme Lewis Hamilton, on sait bien, ou Sébastien Vettel, des motivations, on va dire, politiques, et je ne vais pas me risquer sur ce terrain-là, on voit dans quel pays va rouler la Formule 1. On a moins d'état d'âme dans d'autres pays. Bon,
et,
voilà.
Et juste pour parler d'un aspect financier, le contrat qui lie effectivement le Grand Prix de France à Liberty, juste le propriétaire de la Formule 1, c'est à peu près 20 millions d'euros.
Oui,
les nouveaux arrivants, eux, donnent 50 millions d'euros. Donc,
ben
on
voilà,
comprend tout de suite
façon,
la différence financière entre les.
C'est exactement
les
ça. C'est de la surenchère. Voilà. Et le paradoxe, c'est que, naturellement, la rémunération des écuries, il y en a 10. Et c'est un système, maintenant, tu sais, de licence. Exactement comme aux États-Unis, Liberty Media étant une boîte américaine, ils ont mis en place ces histoires de licence. Donc, pour faire rentrer une 11e écurie, on sait qu'Andretti, l'écurie américaine, évidemment, est postulante pour rentrer, mais il y a une barre. Il faut déjà mettre 200 millions de dollars sur la table avant de commencer à travailler.
D'accord.
Donc, si tu veux, c'est assez dissuasif. Tout ça pour protéger les revenus des 10 écuries existantes. Enfin, tout ça, c'est du business.
Tout à fait.
Espérons que le bon sens prévaudra. Tu sais, on peut toujours rêver. Ça arrive même en Formule 1.
T'as raison. Ouais. Manquerait plus que le Grand Prix de France disparaisse et que Monaco aussi d'ici quelques mois. Donc là, ça serait quand même terrible pour les fans de Formule 1. 14h35 sur RMC. Parlons du sportif. Avant de développer la grille et de reparler des stratégies qui pourraient être mises en place, on rappelle Charles Leclerc va partir devant Max Verstappen et Sergio Perez. Parlons des conditions climatiques parce qu'elles auront énormément d'importance cet après-midi. Il fait très chaud, évidemment, au Castellet et ça peut avoir une incidence sur les machines, forcément.
Absolument. On attend pratiquement 60 degrés sur la piste. Donc là, c'est vraiment énorme. Hein, et ça peut jouer considérablement sur la dégradation des pneumatiques, sur la gestion de ces pneumatiques. Alors, quand tu voudras, on pourra se lancer dans les stratégies. J'ai tout ce qu'il faut. L'idéal, c'est un seul arrêt au stand, bien sûr. D'autant que la ligne des stands a été rallongée à la demande de la FIA. Donc, et la vitesse a été diminuée à 60 km/h. Ça veut dire que la sanction, c'est le cas de le dire, c'est 27 secondes.
Voilà.
Si on s'arrête sous régime de drapeau vert, normal. Et ça n'est que 16 secondes et demie si on s'arrête sous régime de safety car ou de virtuel safety car.
Donc, toi, 10 secondes. Possible.
Exactement. 10 secondes n'ont pas de gagné, mais qui ne sont pas perdues.
Ouais.
Donc, on va voir également s'il y a éventuellement intervention des safety cars qu'on ne peut jamais prévoir. Mais en tout cas, ça entre dans la stratégie des équipes qui, a priori, vont essayer de viser un seul arrêt. Alors, on va voir quelle est également la monte pneumatique adoptée, puisque tu sais que le choix est absolu. Normalement, c'est médium, les pneus à flanc jaune. Et normalement, on s'arrêterait entre le 18 et le 27e tour, en sachant qu'il y a 53 tours dans le Grand Prix.
D'accord.
Ensuite, on montrait les durs et on essaierait d'aller au bout. Mais ça, c'est la théorie.
Là, c'est vraiment la stratégie de l'endurance pour limiter à un seul arrêt sur le Grand Prix s'il n'y a pas d'incident, évidemment.
C'est exactement ça. Maintenant, s'il y a intervention du VSC, là, on va voir l'un ou l'autre intervenir, et c'est ce que j'évoquais aussi dans les paris RMC tout à l'heure, le fait qu'on soit à 2-1, parce qu'on a les deux Red Bull Honda contre une seule Ferrari.
Jean-Luc, avant de parler de la stratégie, rappelons la grille à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément suivi les qualifications d'hier. On le disait, Leclerc en pôle, mais avec les deux Red Bull lancés à sa poursuite, donc Max Verstappen et Sergio Perez, et surtout l'info à retenir dans la grille que tu vas nous détailler, c'est que malheureusement, Charles Leclerc ne pourra pas être aidé par son coéquipier coéquipier Carlos Sainz qui va partir en fond de grille parce qu'il a un moteur tout neuf.
Et voilà, ça aussi, bah, on atteint la mi-saison à la Formule 1. Tu sais ce que j'en pense. Oui. Là aussi, qu'on sanctionne éventuellement les écuries parce qu'on change des éléments techniques, mais le pilote, c'est pour moi, c'est une aberration totale. Je le dis depuis le début. Ouais. Donc Carlos Sainz, qui s'est montré très performant, voire l'un des plus rapides hein, avec Charles et Max Verstappen, va partir en fond de grille. Donc quelque part, il va être lancé dans une remontée météorique, on l'espère.
Ah, mais il peut pas aider Charles directement.
Non, pas du tout. Donc on se retrouve à deux contre un. C'est le cas aussi de Kevin Magnussen, qui a moins d'influence évidemment dans le championnat. Mais bon, Kevin, qui est toujours très rapide à bord de la Haas depuis le début, bah, ces deux pilotes partiront sur la dernière grille. Donc j'en reviens à ce que tu disais. On est très bon en stratégie chez Red Bull Honda. Il faut bien reconnaître qu'on a été beaucoup moins brillant chez Ferrari ces derniers temps. Ah, hein, oui. On se rappelle de Monaco et de Silverstone notamment, où quelque part la mauvaise stratégie a fait perdre Charles Leclerc, exactement, qui était devant. Donc bon, ça peut changer tous les jours, hein, mais espérons que là aussi Ferrari aura appris de ses déboires et saura répliquer avec une seule machine. À la stratégie, on peut en être certain, très maligne. Moi, je vois très bien un arrêt anticipé de Pérez, ouais, avec voilà, parce qu'on peut jouer avec cette cartouche entre guillemets, évidemment, pour essayer de perturber justement le déroulement de Charles Leclerc et de la Ferrari qui devra couvrir les deux. Donc enfin, on va voir ce qui se passe, hein, parce qu'après il y a la théorie et fort heureusement il y a la pratique, mais qui est souvent très différente.
C'est ce qui va être passionnant à suivre, c'est comment Charles Leclerc va garder ses nerfs justement par rapport aux attaques et à la différente stratégie mise en place par Red Bull. On le disait, Leclerc en pôle devant Verstappen, Perez troisième et la belle surprise, Lewis Hamilton qui partira quatrième. Mercedes qui confirme son retour en forme puisque Hamilton partira quatrième. Ensuite on aura Lando Norris sur McLaren, Mercedes cinquième et George Russell, coéquipier d'Hamilton, qui partira sixième. Elles sont là, les Mercedes, finalement, sur la grille.
Elles sont tout à fait là. Alors, on a apporté tellement de modifications depuis le début de la saison et encore là qu'elles finissent par progresser. Ils le disent et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Malgré tout, on ne peut pas jouer dans la cour des grands. C'est-à-dire, on peut pas
les imaginer aller gagner le Grand Prix.
Non, on peut pas aller chercher Ferrari et Red Bull normalement. Ouais. Mais on a vu que il est solide, Hamilton. Hein, là aussi, même s'il a eu, on va le dire quand même, un petit trou d'air en début de saison avec Russell qui l'a beaucoup bousculé. Maintenant qu'il dispose d'une monoplace apparemment qui lui convient mieux, parce qu'il y a aussi des histoires d'évolution qui vont plus dans son sens. Ouais. Bah, il est à l'aise. Il vient de faire plusieurs podiums. Il est là. Il est présent. Il est constant et surtout il domine Russell. Et ça, c'est encore une fois nouveau. On a retrouvé le Lewis Hamilton dominateur. Alors, encore une fois, à moins de circonstances, et tout peut arriver en Formule 1, il ne peut pas jouer la gagne, il ne pourra pas jouer la victoire, mais il sera là et pour éventuellement récupérer un podium si l'opportunité se présente.
14h40 sur RMC, l'Intégral Sport. Dans 20 minutes, départ du Grand Prix de France à suivre en intégralité avec Jean-Luc Roy, la voix de la F1 sur RMC, et avec Denis Chevrier, notre consultant RMC Sport. Dans un instant, on retrouvera également Valentin Jamin qui, lui, est au Castellet, justement pour nous faire savoir si l'ambiance monte justement sur ce circuit du Paul Ricard. On voit d'ailleurs, on a les premières images avec Jean-Luc ici en studio de la chaleur justement qui touche les pilotes. Hein. Tout le monde enfile des gilets justement rafraîchissants parce qu'il va faire très chaud à bord des monoplaces évidemment. Parlons des pilotes français parce que eux aussi seront soutenus. Jean-Luc, on le disait, une affection particulière pour Charles Leclerc qui a grandi non loin d'ici, qui est pilote monégasque, mais qui est considéré tout de même comme français par la majorité du public. Esteban Ocon partira dixième. On est un peu déçu pour Esteban sur son Alpine, puisque Fernando Alonso, son coéquipier, a fait bien mieux. Il partira septième. Et puis Pierre Gasly, c'était une autre déception. Pierre, qui lui partira seulement quatorzième. C'est un peu le bémol des qualifs d'hier, hein, malheureusement.
Il faut être clair, oui, on aurait tellement aimé que les pilotes français figurent au moins dans le top 10 et soient performants. Alors, on s'est posé des questions, donc on a travaillé, évidemment, avant ce Grand Prix pour résoudre pourquoi cette différence entre Fernando Alonso. Ça démontre encore une fois le potentiel extraordinaire du double champion du monde, Alonso, et son métier. Et là aussi, pour tirer le meilleur. Alors Esteban n'est pas loin, il est même très proche. Mais là, pour le moment, on a le sentiment que Fernando, d'ailleurs, qui voudrait prolonger son contrat avec Alpine, hein, pour le moment, il se termine en fin de saison, mais il aimerait lui repartir pour 2 ans carrément. Et si on ne veut pas de lui ou si on le souhaite pas chez Alpine, il trouvera ailleurs. Et il trouvera ailleurs. Donc, en tout cas,
il y a des pistes pour lui.
Il y aurait des pistes. Alors, tu sais, c'est le jeu des chaises musicales.
Oui, bien sûr. Oui, ça c'est sûr.
Ben voilà, les clés, c'est par exemple aller le plus beau baquet à saisir, puisqu'on sait que chez Ferrari c'est bloqué, chez Red Bull c'est bloqué, chez Mercedes c'est bloqué. A priori, ce serait chez McLaren, parce que Ricardo, s'il ne parvient pas à améliorer son niveau
Ricardo
de performance,
qui n'est pas dans une grande période de sa carrière.
Il est, même si on réaffirme évidemment, mais ça c'est toujours comme ça du côté de Brown, que on va le garder. Bon, s'il continue pas à améliorer ses performances, il y aura un baquet chez McLaren. Et il y a du monde qui est intéressé. On a même parlé de Vettel.
Alors, et tu préciser vois d'ailleurs que au contraire de Fernando Alonso, Esteban Ocon a un contrat longue durée chez Alpine. Il a signé jusqu'en 2024, donc lui, il a un avenir assuré, a priori, dans l'écurie française. 14h42, justement, Jean-Luc, filons au Castellet, retrouver Valentin Jamin, qui, je l'espère, est en Marseille, vu la chaleur qui s'abat sur le circuit Paul Ricard. Valentin, est-ce qu'il y a de l'ambiance qui monte? Justement, on est à 18 minutes du départ de ce Grand Prix de France. Est-ce qu'il est là, ça Valentin monte,
et pour cause, les pilotes là, oui. ont fait leur premier tour de roue. Leur premier tour de circuit à bord de leur monoplace. Et évidemment, le public a fortement apprécié. Grande ovation pour les Français Ocon et Gasly. Et ovation également pour Lewis Hamilton. Voilà, il y a, vous savez, tout ce qui se passe avant le départ. C'est-à-dire sur la grille de départ, bien tous les techniciens, on est en train de préparer les monoplaces. C'est noir de monde. Il y a des VIP. On a vu Fabio Quartararo. On a vu l'acteur Jean Reno. On a vu Jean-Luc Reichmann, Gad Elmaleh. Également Florent Manaudou. Bref, il y a du beau monde. Et au moment où je vous parle, il y a un clapping qui est lancé par certaines personnes qui travaillent pour le Grand Prix de France en tribune. Donc ça monte doucement, effectivement, cette ambiance qui promet d'être chaude, tout comme l'air, tu l'as dit, Benoît. Il fait près de 35 degrés ici au Castellet.
Voilà, Valentin Jamin, c'est notre Tintin reporter. Et il a eu le temps de tendre son micro à Pierre Gasly il y a seulement quelques secondes. Pierre Gasly qui va tout tenter devant son public pour, pourquoi pas, espérer une remontée fantastique. Écoutez.
Honnêtement, pour l'instant, il y a plein de choses que je pense qu'on comprend pas forcément. Il va juste falloir bien travailler ce soir. C'est sûr qu'on part pas dans la position qu'on aurait espéré demain pour le Grand Prix. Mais un Grand Prix, c'est extrêmement long. Il va faire très très chaud. Je pense qu'il y aura plusieurs stratégies possibles. Et de là où on part, on a rien à perdre. Donc il va falloir attaquer. Et j'espère pouvoir remonter le maximum de places possible.
Voilà, il va tout tenter, Pierre Gasly. Ouais. Et on l'espère, ça va nous offrir du spectacle. Et puis, il est très fort, ce Valentin Jamin. Il m'a trouvé un Bob Ricard, mon petit Jean-Luc. Tu veux qu'il t'en ramène un?
Historique. Ah, volontiers.
Ah, bon, on va essayer. Est-ce que tu as mis la photo sur les réseaux sociaux, Valentin?
Malheureusement, c'est rupture de stock.
Tu te débrouilles. Excuse-moi, t'es dans un paddock de Formule 1, tu dis Jean-Luc Roy, on va te donner un Bob. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. OK?
Oui, c'est vrai. Aux organisateurs, voilà. Je vais demander ça.
Merci bien. Allez, à tout à l'heure. Évidemment, Valentin Jamin, ensuite, ce Grand Prix de Formule 1 au Castellet. Oui, évidemment, il est obligé d'adopter une stratégie agressive. On l'a dit, partir à loin. Pierre Gasly, ça peut nous offrir un départ fantastique, à ton avis, Jean-Luc?
Oui, en tout cas, il va tout faire. Alors, il est du mauvais côté de la piste, malheureusement, côté paire, comme tu le sais. Ouais. Traditionnellement, la partie la plus utilisée, naturellement, par la ligne normale, la trajectoire, eh bien, elle est à gauche. Elle est du côté de Charles Leclerc, de Sergio Pérez, de Lando Norris, de Fernando Alonso, de Daniel Ricciardo. Et à l'inverse, eh bien, on va chercher l'adhérence au maximum du côté de Verstappen, d'Hamilton, de Russell, de Tsunoda, d'Ocon, de Vettel et de Gasly, soit les deux pilotes français qui, a priori, on va déjà le dire, vont avoir du mal à devancer l'homme qui est sur la même ligne que la leur, mais du côté gauche où l'adhérence est censée être meilleure. Maintenant, on a vu, et je croise les doigts pour que ça se passe pas comme ça, on a vu à Silverstone qu'il suffit qu'un ou deux pilotes prennent un très mauvais départ sur la grille d'un côté ou de l'autre pour que derrière tout puisse arriver, le meilleur comme le mauvais.
Ouais, voilà. Heureusement, il y a les halos qui peuvent sauver la vie des pilotes, c'est ce qui s'est passé récemment en Formule 1, tu le disais. Juste pour parler plus particulièrement des caractéristiques de circuit, Jean-Luc, est-ce que c'est un circuit qui permet les dépassements? Est-ce qu'on peut avoir des dépassements tout au long de la course?
Oui, déjà parce que l'évolution technique, on le dit depuis le début de la saison, avec cette réglementation des monoplaces 2022 qui est magnifique, puisque les pilotes se suivent, se battent et se dépassent et se redépassent, donc ça c'est fantastique. On a gardé
ce qu'on aime, de toute façon.
C'est ce qu'on adore. On a gardé le DRS, il y a de très belles lignes droites où on peut utiliser le DRS, et puis il y a des enchaînements de courses magnifiques. Moi, j'adore ce circuit Paul Ricard, avec les S de la Verrerie, par exemple, juste après le départ, avec la courbe de signe qui est magnifique, suivi du double droite du Bossé. Enfin, tout ça sont des endroits vraiment mythiques, j'allais dire historiques, où moi j'y ai vécu des batailles Senna-Prost, Mansell, Piquet, qui tu veux.
Et on veut nous enlever ça.
Et on veut nous enlever ça.
Tout ça pour aller à Vegas.
Mais non, c'est pas possible. Ou pire, dans des pays où les circuits n'en sont même pas et où il n'y a pas un spectateur ou quasiment autour du circuit. Enfin bon, espérons une nouvelle fois que la raison prévaudra. Et allez, dans le bleu, on parlait de Monaco, on parlait de la France, je parle de Spa-Francorchamps.
Évidemment.
Qui est également le plus beau circuit du championnat.
Et le circuit préféré
des
pilotes.
Exactement. Avec un pourvu que ces trois circuits soient préservés. C'est vraiment le vœu de tous les passionnés de F1, je crois.
Bravo le King. Le décor est planté. Je passe un petit coucou à Denis Chevrier qui nous rejoint, consultant RMC Sport. Salut Denis.
Oui, bonjour à tous.
Voilà, Denis dans les starting blocks, évidemment.
Salut Jean-Luc.
On aura le temps de poser les enjeux avec toi dans un instant. 14h46, une petite pause, le rappel de l'actualité. Et on y va pour le Grand Prix de France sur RMC, la 12e manche du championnat du monde avec Charles Leclerc qui va tenter de s'affirmer face aux assauts de la Red Bull, de Max Verstappen. Ça va être fantastique. Un grand moment direct cet après-midi sur RMC. Ne bougez pas, à tout de suite. RMC.
Intégral Sport.